I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de Entomojo. Derrière ce joli projet se cachent deux jeunes demoiselles, Madeleine et Paola, toutes deux passionnées par les chiens. Elles ont créé des croquettes élaborées à base de protéines d'insectes, 100% équilibrées, écologiques et fabriquées en France. Vous avez envie de faire le test avec vos compagnons à quatre pattes ? Avec le code Chiffon, Madeleine et Paola vous offrent 40% de réduction sur votre commande. Je tiens à préciser que Mademoiselle Fleur Simone, mon propre chien, la reine de Chiffon, a testé et validé le produit, et surtout son vétérinaire aussi. Alors rendez-vous sur le site www.entomojo.com. Et puis, si vous avez envie de soutenir cette petite entreprise, elle est en pleine campagne Ulule. Je dis ça, je dis rien. Allez, place à notre invité du jour.
Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon ? Robe ou smoking ? Mini-jupe ou jupe midi ? Talon ou basket ? Et vous, messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean ? Les fringues ne sont pas votre affaire ? Ou êtes-vous une fashion victime ? Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable ? Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime ? Et qu'est-ce que l'élégance ? Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous ?
Une définition de l'élégance. Mon Dieu, c'est difficile, vous posez des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes.
Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune styliste de 29 ans qui a grandi en Afrique et qui est arrivée à l'âge de 15 ans à Paris pour ses études. Et pour elle, cela a été un véritable choc culturel. Victorine rêvait de devenir parisienne, elle l'est devenue, mais pas sans difficulté. C'est une histoire d'un parcours de vie très touchant et surtout très intéressant. Bonjour Victorine.
Bonjour Valérie.
Tu m'as écrit un long mail que tu as commencé par une phrase très forte, je te cite. Je suis à une période clé de ma vie, qu'entends-tu par là ?
Je suis à une période clé de ma vie parce que aujourd'hui voilà, j'ai 29 ans, je suis styliste depuis maintenant 8 ans et je suis en pleine remise en question. C'est-à-dire sur qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je me suis mariée aussi.
Ah ça y est, parce que quand tu as écrit le mail, tu allais te marier, donc félicitations.
Voilà. Et donc, oui voilà, c'est une période qui est faite de plein de chamboulements. Et
c'est peut-être l'approche de la trentaine aussi.
Peut-être.
Bon, on possible. Va voir que
même si bon pour l'âge, j'ai pas, je c'est pas quelque chose sur lequel je pense beaucoup, mais
tu focalises pas sur ton âge en fait.
Non.
Alors, je vais reprendre ton mail point par point parce que je pense que cette enfance et adolescence en Afrique n'est pas sans conséquence aujourd'hui et sur ta façon de vivre, hein, c'est ce que tu me dis. Tu es née d'une mère française, d'un père belge.
Oui.
Tu as passé ton enfance au Sénégal, ton adolescence au Mali. Et donc, cela n'a pas été sans impact sur ta façon de t'habiller.
Non.
Dans le mail, tu m'écris, je te cite, que ton enfance t'évoque une féminité exotique. Peux-tu me parler de la féminité des femmes africaines ?
Alors, pour moi, c'est une féminité qui est très démonstrative. Je me souviens toujours d'une copine qui, un jour, se regarde dans le miroir et qui me dit oh, « j'ai maigri ». Il faut que... Là, je vais perdre...
Elle avait quel âge ?
Elle avait, à cette époque-là... Je me souviens, j'étais en vacances, du coup. J'habitais déjà à Paris, j'étais en vacances. Et on devait avoir 16 ans.
Mm-hmm.
Et oui, c'est ça. C'est une féminité très démonstrative. Où le corps, finalement, fait la part belle, en tout cas, aux femmes.
Elles aiment les formes.
Oui. Et les hommes aussi.
Toi, je peux te décrire, tu es très mince.
Ouais, je plais pas du tout en termes de physique.
Et dans ton mail, tu me dis même qu'elle, tu te cites, elle me complexait parfois.
Ah bah oui, parce qu'elle me disait que, enfin, en plus, elle se gênait pas pour me dire que j'étais vraiment maigrichonne. Là, d'ailleurs, quand je reviens là-bas, à chaque fois, on constate que j'ai encore maigri. Enfin, c'est...
Oui, tu dis, tu parles, tu en trois phrases, je crois que tu as trois fois le mot maigri, en fait. Oui. Et dedans, tu me dis aussi qu'elles aiment les paillettes, les couleurs, les broderies scintillantes, les perles qui font du bruit, et j'en passe.
Oui, alors ça, c'est particulièrement... Enfin, même au Mali. Mais je me souviens, au Sénégal, le samedi, avant d'aller sortir dans les boîtes de nuit, il y avait des boîtes de nuit où on dansait le mbalar.
Et alors, tu peux nous expliquer ce que c'est?
Oui, alors le mbalar, c'est une danse où elle, si je décris bien, elle claque un peu des jambes. Et du coup, il y a des pagnes. Et il faut faire du bruit avec les pagnes. Et donc, je me souviens, il y avait une dame qui s'appelait Fatou, une jeune femme qui venait régulièrement à la maison. Et de temps en temps, elle brodait, je voyais qu'elle brodait son pagne avec des perles pour préparer sa soirée, pour avoir un pagne qui fasse du bruit et avec lequel elle pourrait claquer des jambes, en tout cas.
Et pour faire encore, oui, c'est ça, voilà. pour se faire remarquer, en fait.
Oui, oui, puis c'est très sexy, parce que le pagne souffre hein, quand on claque des jambes, puis il y a un moment où, voilà, ça doit claquer encore plus, et puis... non, voilà, il y a... Ce qui est assez marrant, et ce qu'on ne s'imagine pas toujours, c'est qu'il y a quand même une image, moi, que je trouve très féminine et très sexy, en même temps, chez ces femmes. Et même, par exemple, à Noël... c'est pas spécialement en famille que ça va se fêter, ça va se fêter en boîte de nuit. Et donc le Noël en boîte de nuit à Bamako, dans une boîte de nuit qui s'appelle le Biblos notamment,
comme à Saint-Tropez.
Ouais. C'est un défilé de sirènes, c'est-à-dire que c'est les robes de soirée, de la paillette, il y a les coiffures, les tresses qu'on aura préparées, le maquillage très voyant, et en fait toute cette couleur et en tout cas tout ce sentiment, moi je trouve personnellement que c'est assez magnifique.
Et toi, quand tu sortais avec elle à cet âge-là, comment tu t'habillais?
Alors moi, j'aurais jamais pu faire pareil, je pense, parce que déjà, c'est horrible, je veux dire, mais je reste en fait une jeune fille européenne, donc quand je sortais, j'avais aussi mon petit top à paillettes, j'avais
des couleurs.
Voilà, des couleurs. C'est sûr que à cette époque-là, en tout cas, j'étais très 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 colorée.
Alors justement, quand tu es arrivée à Paris pour faire tes études, tu as eu beaucoup de mal à t'adapter à la mode française. Tu rêvais de venir à Paris, c'est-à-dire pour porter des bonnets, des manteaux.
C'était une conviction qu'il fallait que j'aille à Paris, et d'autant plus que c'était pour aller à l'école Estienne, et donc j'avais décidé très tôt, et je bassinais déjà ma mère pour lui dire que voilà, il fallait que j'aille à Paris.
Mais pour être en manteau, et ce que tu me dis dans le mail, porter des longs manteaux, des pulls,
des collants,
des gros bonnets, des bottes. Et en fait, au départ, tu étais en collant en rose fluo, doudoune jaune canari et hug violette.
Ouais, j'ai choisi plein de choses quand j'ai dû faire les courses en préparation de cette installation à Paris. Et j'ai fait aujourd'hui, je pense, que des mauvais choix. Voilà. Donc, effectivement, et en plus, quand on ne connaît pas, c'est-à-dire qu'on ne choisit même pas les bonnes matières.
Oui, donc... c'est ça, tu disais que tu prenais des pulls synthétiques.
Exactement. Mais pour moi, il fallait que tout soit coloré. C'était pour moi, dans ma tête, je ne pouvais pas lâcher la couleur. Et ce qui est assez bizarre aujourd'hui, parce que je suis en marine et en noir.
On va en parler.
Mais. Non, oui, c'est ça. Et donc, il me fallait ces hugs, il me fallait cette doudoune. Et dans ma tête, tout était connoté chaud. Et effectivement, dans les désagréments, par exemple, le premier jour où j'ai porté un collant, en 5 minutes, je l'ai filé. Et effectivement, les hugs, je les avais choisis, mais je n'ai pas pris la bonne couleur. Et en plus, il me semble que c'était des fausses hugs.
Et à cette époque, tu étais dans une école de mode. Comment on te regardait?
Alors, je n'étais pas encore dans une école de mode. J'étais dans une école de... C'était un bac STI art appliqué, donc graphisme. Enfin, c'est tous les métiers du design.
Au lycée, à ce moment-là. Voilà. Alors, mais quand...
Et j'ai eu le sentiment que... Alors, au début, je ne me rendais compte de rien. C'est-à-dire que je parlais à tout le monde, je disais bonjour à tout le monde, je disais à tout le monde que je venais de Bamako. Enfin, j'avais une espèce de... Voilà, j'étais très, 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 très enthousiaste. Et là, il y avait encore du soleil, on était en septembre, et puis à un moment, il y a l'automne qui est arrivé.
Et la grisaille.
Et les gens, ils ont commencé à être un peu moins sympas avec moi. Il y avait les problèmes de la vie. Effectivement, quand il n'y a plus de soleil, les gens sont moins heureux. Donc, il y a eu un moment de solitude où, avec ma doudoune jaune, je me sentais vraiment seule. Voilà, je me souviens de...
C'était pas trop difficile pour toi pour...
J'ai pas un souvenir difficile. Il y a eu... Si, il y a quand même eu un jour où j'ai été très, 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 très mal. Je me souviens, j'étais même en cours de français. Et j'ai demandé à partir du cours pour aller à l'infirmerie. Et donc, j'arrive à l'infirmerie. Et là, c'est une femme, c'était une antillaise. Et je lui dis, oui, j'ai mal à la tête. Et cette femme me dit, c'est pas toi qui viens d'Afrique ? Je dis, bah, si. Et elle me dit, ok, donc laisse tomber le Doliprane, on va parler. Et elle a commencé à me parler justement de elle, quand elle est arrivée à Paris, comment elle s'y est habituée. Et du coup, on a communiqué. Et depuis ce jour-là, en tout cas...
T'as compris certaines choses. Bah, certains codes aussi, j'imagine.
Oui, certains codes. Et puis que quelqu'un réponde en tout cas à cette différence que je ressentais, ça m'a fait un bien fou. Et puis après, tout a été beaucoup plus facile.
Pourquoi la vie à Bamako, là-bas les gens aiment beaucoup les fringues et tout, mais sont plus ouverts, il y a vraiment plus de chaleur ou pas vraiment? Qu'est-ce qui te manquait le plus en fait? Le soleil certainement.
Non, mais je pense que comme j'avais grandi là-bas, ce qui m'a le plus manqué, finalement, c'était mon entourage et la confiance que j'avais par rapport à mon entourage. Comme j'avais grandi là-bas, on savait, en tout cas, que la personne que j'étais. Et quand je suis arrivée à Paris, finalement, la personne que j'étais était un petit peu décalée. Je savais même, il y avait même des choses, des fois on me parlait, je comprenais même pas, que ce soit même une série télé qu'on pouvait avoir connue dans son adolescence, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore TF1 et toutes ces chaînes, en tout cas en Afrique, maintenant oui, mais moi quand je suis arrivée c'était pas encore le cas. Donc il y avait vraiment un décalage en tout cas au niveau de la culture et des connaissances, et d'ailleurs je reviens à mon cours de français. Là-bas, en cours de français, j'étais très, très bonne élève. Et quand je suis arrivée ici, ça a été l'échec le plus complet, parce que en fait, je ne comprenais rien. Et surtout, je ne connaissais pas ce dont on me parlait. Mm-hmm. Parce que, oui, les cours, même si j'étais à l'école française, c'est pas pareil.
C'est plus cool, peut-être, aussi.
Non, pas forcément. Mais par exemple, je vois, même pour les cours d'histoire, par exemple, on a aussi des cours d'histoire du Mali. Donc c'est très mélangé.
Alors un truc rigolo quand même qui m'a fait rire, tu me dis que quand tu es arrivée à Paris, tu es tout de suite tombée amoureuse des hommes parisiens.
Ouais.
Alors qu'avait-il en plus? Alors tu me parles de dégaine, nonchalance, démarche, et tu me dis même que c'est à Paris que tu t'es découverte en tant que femme.
Tout à fait.
C'est grâce à ces parisiens. Alors qu'est-ce qu'ils ont, ces parisiens?
Alors déjà, moi quand je suis arrivée à Paris, il y a... Ça paraît un peu prétentieux, mais je me suis rendu compte que je pouvais plaire. Et qu'en tout cas, je rentrais en tout cas dans un critère de beauté qui pouvait plaire ici. Et du coup, bah oui, j'en ai profité. Ça a été une manière d'exprimer ma féminité. Alors là, du coup, j'en ai peut-être encore trop fait. Je n'arrivais pas à doser. En fait, ce que j'ai découvert avec ces hommes, c'est que c'est même les discussions, les conversations, c'est des hommes avec qui on peut beaucoup parler, en tout cas.
Ce qui n'est pas le cas à Bamako.
Si, mais pas de la... voilà, différemment. C'est ici, j'ai eu l'impression de pouvoir avoir des discussions très intimes, de pouvoir...
Tu trouves que les Parisiens se livrent beaucoup?
Ça va intéresser certaines. Hein. Ou en tout cas, oui, il y a une liberté. En tout cas, ce que j'ai eu l'impression, c'est d'avoir en tout cas une liberté de parole avec ces hommes et en tout cas d'être écoutée.
Mais au niveau de la galanterie et tout ça, ça aussi ou pas?
Alors, on dit que les Parisiens sont très râleurs et on dit que les Parisiens sont mal aimables dans le métro. Moi, j'ai pas cette version-là. Mais... en tout cas, peut-être que je faisais pas attention à la galanterie, mais en tout cas, au niveau de la communication, je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose. Et puis surtout, oui, comme je dis, je l'ai trouvé très très beau.
Et tu avoues même avoir eu un cœur d'artichaut.
Oui, 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 oui. C'est-à-dire que je tombais amoureuse tout le temps. Mais, vraiment. Mais je... C'est ça, c'était même dans leur look, dans, leur, dans la manière de porter leur manteau, leur chemise, dans la manière d'être soignée. Alors, je ne dis pas qu'à Bamako, les hommes ne sont pas soignés, bien au contraire.
Il y a des sapeurs là-bas.
Ouh là là. Alors, au Mali, pas tant que ça. Par contre, voilà, encore une fois, dans cette démonstration, je vais citer en exemple mon beau-père, qui, quand il y a un événement, ou en tout cas quand il est en représentation, mon beau-père est malien, pour la précision, et ben, il va sortir son grand boubou et ses colliers en or et ses ambres, et il est magnifique. Mm-hmm. Il est magnifique, c'est-à-dire que... Voilà.
Toi, tu as épousé un Parisien.
Ah, complètement.
C'est la première chose
né
que
à Paris.
Né à Paris, oui. Un vrai de vrai.
Un vrai de vrai, qui me rappelle que moi, je ne suis pas parisienne, parce que je ne suis pas née à Paris.
Alors, je reprends encore ton mail. Après tes études, tu as été recrutée dans une enseigne de prêt-à-porter très appréciée par les Parisiennes, dont on ne citera pas le nom. Et grâce à ce job, tu as découvert l'Asie et leurs usines de fabrication.
Tout à fait.
Et là, tu prends conscience des exigences du métier à cause de des enseignes de la fast fashion. Tu peux nous parler de ce ressenti et expliquer ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là ?
Alors... Là, aujourd'hui, on parle de la fast fashion et très souvent, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de ce qu'il y a derrière la fast fashion. On dit la fast fashion, c'est mal, on dit la fast fashion, ça exploite.
Je précise que l'enseigne pour laquelle tu travailles, ce n'est pas de la fast fashion. Hein.
Non, 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 pas tout à fait. Mais, en revanche, elle est aussi dépendante de ce système de la fast fashion qui va... voilà, aujourd'hui, on a Zara, on a H&M. Tous les 15 jours, il y a des nouvelles collections qui sortent, qui sont en vitrine. Ils ont habitué les clientes à cette nouveauté.
Donc une production énorme.
Voilà, une production énorme. Et donc aujourd'hui, nous, les stylistes du prêt-à-porter, ce qui se passe, c'est qu'on est dépendant de cette vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une cliente, elle va en magasin, si elle n'a pas sa nouveauté, ça la perturbe. Mmh. Et puis, surtout, je pense que ça aussi nourrit au niveau de la clientèle. Alors, c'est en train de changer aujourd'hui, mais quand on achète un vêtement, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas. Et cette fast fashion ne laisse pas le temps, en tout cas, de se poser la question. Mmh. Et donc, du coup... Étant styliste dans le prêt-à-porter, il faut suivre cette cadence. Il faut suivre cette cadence.
Tu me disais que c'était tes supérieurs qui te demandaient d'aller plus vite, en fait.
Ah bah oui, mais même eux, on leur demande d'aller aussi plus vite.
Oui, c'est ça. Donc, c'est un cercle vicieux.
Ah bah complètement.
Et ça au détriment de la qualité, en fait.
Alors, non. Pas
forcément.
Pas forcément, c'est pas lié. C'est pas lié. Pour le coup, non, c'est pas lié. Ce qui pourrait être lié aujourd'hui, c'est plus les coûts. Les coûts, si ça se réduit, si on veut vendre un produit pas cher en magasin, c'est sûr qu'il faut faire des concessions sur le produit. En revanche, non, la vitesse, ça demande aux stylistes d'être à l'affût des tendances constamment. Ça demande de suivre les défilés des Fashion Week pour vraiment être sûr qu'on va pouvoir sortir le bon truc au bon moment.
Vous vous inspirez des Fashion Week ?
Alors, des Fashion Week, de Pinterest, de Instagram, aujourd'hui c'est très riche, on peut aller... Mais on s'inspire aussi de la société dans laquelle on vit et des derniers événements qui se sont passés.
Quand tu as été dans ces usines-là, justement, tu as pu voir aussi les enseignes de fast fashion, alors est-ce que les ouvriers sont aussi maltraités que ça ?
Alors, je pense que moi, au niveau des usines, j'ai eu de la chance et qu'on ne m'a pas envoyée dans des usines... de toute façon catastrophique, et de toute façon derrière il y a des audits, il y a des voilà, c'est quand même très contrôlé, c'est-à-dire que le risque n'est pas zéro, mais ça reste très contrôlé.
Les enfants travaillent de moins en moins, il y a un vrai contrôle sur les enfants ou...
Alors moi j'en ai jamais vu. Mm-hmm. Voilà, personnellement je n'en ai jamais vu,
qui ne veut pas dire que ça n'existe pas,
qui ne veut pas dire que ça n'existe pas et qui ne veut pas dire qu'on ne nous le montre pas. En tout cas, moi personnellement je n'en ai jamais vu. J'ai vu des usines très très modernes en Chine notamment, en Inde on est sur des usines beaucoup plus artisanales où effectivement ça change de la Chine. La Chine, on est vraiment dans des grosses usines, voilà, on est dans du métal.
Je crois qu'ils ont légiféré en plus en la matière.
Oui, il me semble. Mm-hmm. Et en Inde, il y a quelque chose de plus artisanal, mais en même temps, ce sont des ateliers de broderie, c'est des ateliers de teinture. Donc, c'est différent. De toute façon, dans la, même dans la manière de traiter la matière, on est sur un savoir-faire différent entre la Chine et l'Inde.
Alors justement, tu me parles de l'Inde. Ça fait partie aussi de ton parcours de vie, parce que c'est passé quelque chose
tout à
en
fait.
Inde pour toi. Un jour, en rentrant d'Elie, tu tombes malade et ça a été un déclencheur pour toi.
Tout à fait. Alors, on était dans ces voyages de développement. Donc, il faut savoir que quand on va là-bas, on fait du développement. Donc, on a des tissus, on a des matières, on dessine, on met des mesures, on briefe les fournisseurs. Et
vous travaillez sur combien de collections en avance ?
Alors, on a à peu près entre 10 et 13 collections par saison.
Mm-hmm. Ce qui est énorme.
Ouais, c'est des renouvellements à peu près toutes les 3 semaines.
Ah oui.
Voilà. Et après, bon, il y a des nombres de modèles par collection qui sont différents. Mais oui, on arrive à peu près entre 250 et 300 modèles par secteur. Mm-hmm. Voilà, donc moi pour mon secteur.
Donc toi, t'es revenu épuisé en fait ?
Complètement. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, on avait deux rendez-vous fournisseurs, on les embouteillages. Parce qu'il faut savoir, voilà, l'Inde, par exemple,
oui,
les
l'Inde,
rendez-vous.
C'est pas que le yoga et la spiritualité.
Non, non, il y a aussi, voilà, le trafic routier pour aller d'un rendez-vous à un autre. Et enfin, bon, bref, voilà, des journées qui ne terminaient pas. Et j'arrive à l'aéroport en me sentant hyper mal. Et là, excusez-moi, c'est un peu dégueulasse. Je vomis par terre, mais vraiment, voilà, à la devant l'aéroport, à la porte.
C'est ton corps qui a parlé, en fait.
Voilà, exactement. Et j'arrive quand même à rentrer dans l'avion, donc ça ne se calme toujours pas. J'arrive à Paris, ça ne se calme toujours pas. Et donc, en fait, tout ce que je mangeais, je le recrachais. Et donc, je finis par appeler le médecin. Et le médecin me regarde et me dit, mademoiselle, il me dit, vous faites quoi comme métier ? Et donc, je lui dis, bah, je suis styliste. Et il me dit, il me dit, vous êtes salariée, vous êtes indépendante. Donc, je dis, bah, indépendante. Et là, il me dit, bon, je vais vous poser une question. Depuis combien de temps vous n'avez pas pris de vacances ? Mmh. Et là, je calcule et je me rends compte que ça faisait un an. Un an que j'avais travaillé pour cette boîte en question, pour d'autres boîtes aussi, et que je n'avais même jamais pensé à moi. Et que dans tout ça, je me suis rendu compte que le résultat, c'est qu'en plus, je n'étais même pas convaincue, moi, de mon propre savoir-faire.
Oui, parce que tu m'écris, pour une fois, je crois en moi et je comprends enfin ce que mon histoire m'a apporté.
Tout à fait.
Et c'est là que tu as décidé de créer ta propre marque Victo,
ouais.
Tout en continuant à travailler en freelance à côté,
oui, bien
évidemment.
Sûr. Ouais. J'ai pas pris le risque de tout lâcher. Et puis en plus, je pense que je me nourris de mes expériences professionnelles à côté. Et je pense qu'elles m'apportent en tout cas beaucoup dans mon quotidien, en tout cas avec ma marque.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu travailles pour des marques qui fournissent, donc tu me disais, 3 collections, je sais plus combien de collections.
Ouais, entre 10 et 13.
10 et 13 collections par saison. Toi, tu as choisi de proposer seulement 5 pièces.
Oui.
Donc, veste, jupe, robe, pantalon, combinaison. Et de tout décliner autour de ça. Pourquoi cette philosophie ?
Alors, j'aime bien être positive, donc j'aime pas dire que c'est parce que j'en avais vraiment ras-le-bol, mais la vérité c'est que oui, j'en avais ras-le-bol. J'en avais ras-le-bol de pas prendre le temps sur mon produit, j'en avais ras-le-bol de pas aller jusqu'au bout des choses, et surtout je me suis dit, ton concept, il faut qu'il parle de ce que tu vis en ce moment, et il faut que tu apportes une réponse à ce que tu vis.
Mais c'est une certaine quête de minimalisme en fait.
Complètement. Complètement. Et d'ailleurs, qui est complètement paradoxal, finalement, avec la personne que je suis, qui est paradoxal, finalement, avec mon parcours, où il y a plein de cultures, et en même temps, personnellement, je ne le trouve pas si déconnecté. Au contraire, il parle de surtout...
Parce que quand on regarde ton site, c'est assez sobre, ce que tu fais en plus.
Oui, oui. Donc l'idée c'était vraiment de ralentir la cadence et de faire en tout cas une mode qui soit ralentie. Alors je parle pas de slow fashion parce que j'estime ne pas encore avoir toutes les connaissances pour parler de slow fashion. C'est-à-dire que je pense que voilà, dans tout ce qu'on fait, et en tout cas dans la mode, moi c'est un truc qui m'énerve, qu'on parle du Made in France ou de la slow fashion, les gens ne sachent pas toujours de quoi ils parlent.
Du Made in Paris aussi.
Voilà, ouais. Tout à fait. Mais même de la fast fashion, parce que des fois on la critique, mais on ne sait pas ce qu'on critique. Mmh. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de recul, et moi j'estime ne pas encore avoir les connaissances pour parler en tout cas de fast fashion, de mode écologique et tout ça. Mais... dans en tout cas dans ma vie de styliste, j'avais ce besoin de ralentir et de prouver que je pouvais faire quelque chose à mon rythme et avec bienveillance. C'est-à-dire que même quand j'ai travaillé avec les gens qui m'entouraient, parce que je me suis entourée d'une graphiste qui s'est occupée de mon identité visuelle, d'un photographe, j'ai pris des gens que je connaissais et qui me connaissaient très très bien. Une fille avec qui j'ai été en cours, un photographe qui était le fils du tuteur, enfin en tout cas de la personne qui s'occupait de moi quand je suis arrivée à Paris. Et voilà, je me suis entourée de bienveillance et je me suis dit que si au moins il y avait une personne dans la mode qui faisait les choses avec bienveillance, ça ferait au moins une. Voilà.
Pourquoi veste, jupe, robe, pantalon, combinaison? Parce que pour toi, ce sont des basiques à avoir dans une garde-robe.
Voilà, alors je parlais de fondamentaux de garde-robe et donc j'ai regardé dans le vintage, j'ai regardé dans le vestiaire des hommes et de là, j'ai commencé à dessiner des produits. Voilà, des produits qui m'inspiraient, des produits sur lesquels j'avais envie de travailler parce que l'idée, c'était vraiment de prendre du plaisir et surtout de sans prétention, c'est-à-dire... pas commencer à faire des choses exceptionnelles. L'idée, c'était de proposer du fondamental.
Du classique.
Voilà. Finalement. Exactement. Et donc, de toutes ces inspirations, j'en ai fait plusieurs, des dessins. J'ai même proposé d'autres pièces. Mais il y a un moment, je me suis dit, mais là, c'est cohérent.
Mais le plus difficile à trouver dans la mode, et c'est ce que je vois dans les gens que j'interviewe dans Chiffon, avec les gens, c'est qu'ils ont tous des difficultés à trouver des basiques, en fait.
Complètement. Et surtout, le basique, il peut être aussi... Il peut être, excusez-moi du terme, un peu chiant parfois. C'est-à-dire qu'un basique, c'est quoi? On va dire une chemise bleue, un t-shirt blanc. Et en fait, non. Pour moi, un basique, c'est ce qui va habiller la mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode et les tendances, il ne faut pas les renier. C'est ce qui fait notre société. C'est ce qui nous inspire aussi dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas que du vêtement, en fait, la tendance.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, mon chemisier hyper à la mode, je vais le porter avec quoi? Avec quoi il va avoir de l'allure? Avec quoi il va avoir un look? Voilà.
Avec une jupe classique.
Bah oui, mais qui a une bonne coupe, une bonne matière, et qui va pas se déformer au premier lavage ou blanchir ou qui voilà, c'est une notion de qualité quand même.
Alors on va revenir sur ta garde-robe personnelle. Elle a évolué entre tes origines européennes et ton enfance africaine. Je te cite, j'ai dosé, je me suis adaptée, mais je n'ai pas effacé celle que je suis. Alors quel est ton style aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, enfin, je suis passée par beaucoup de hauts et de bas et je me suis même pris des claques dans la figure.
Avec qui?
Avec mon look. Et bien quand j'ai commencé à travailler, on a commencé à... Parce que je l'accorde, ça allait des fois beaucoup trop loin, mes jupes des fois étaient beaucoup trop courtes.
Les chaussures plateforme aussi.
Oui, voilà. Ah non, mais je mélangeais tout et je n'avais... J'étais très, très, très contente en plus de moi. Et en fait, il y a un moment, on m'a dit, mais tu ne... Quand j'ai commencé à travailler, on m'a dit, mais tu ne présentes pas bien la marque. Tu ne... Ou même une fois, on m'a dit, fais-toi un peu oublier, mets des ballerines.
Ah bon?
Oui. On m'a quand même dit ça à un moment.
Ah oui, dans... Ah oui.
Oui, 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 quand j'ai commencé à travailler. Et alors, sur le coup, je l'ai mal pris. Aujourd'hui, avec le recul, je pense que cette remarque, même si elle est violente, m'a quand même aidée. C'est-à-dire que, malgré tout... il fallait quand même que voilà, j'affine mes goûts, en tout cas personnels, et il fallait que fallait que je sois plus présentable quand même.
Tu m'écris, ton jean fétiche est un boyfriend Levi's, tes talons n'ont plus de plateforme, ton sac est un APC, tes ongles sont courts et carrés, et surtout je fais très attention à la composition de mes pulls.
Tout à fait, parce que j'ai eu beaucoup d'allergies avec mes pulls en acrylique au tout début, donc je me souviens avec des plaques de boutons dans le dos, enfin j'étais pas du tout habituée en tout cas aux produits chauds. Et donc pour revenir à l'autre question, aujourd'hui je pense que mon style, alors je tiens à rester très féminine, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je pense qu'en tout cas aujourd'hui c'est ce qui me permet d'avancer et c'est ce qui fait ma force et c'est ce qui donne mon assurance.
Alors c'est quoi la féminité pour toi?
Alors, ça peut être très cliché. Enfin, c'est-à-dire que j'aime bien que ma taille soit soulignée. J'aime bien avoir les ongles vernis. J'aime bien avoir les cheveux bien brushingés. Enfin, c'est très cliché. Et j'aime bien être bien maquillée. Mais derrière, aujourd'hui, je vais radoucir sûrement avec, avec des pièces justement un peu plus basiques ou avec des talons justement un peu moins hauts que sans plateforme, avec des matières de meilleure qualité. Et surtout, aujourd'hui, je me rends compte que j'achète beaucoup moins, mais j'achète mieux. Parce que voilà, je n'ai pas un budget inconsidéré et du coup, je...
T'es une acheteuse raisonnable.
complètement. C'est-à-dire que je peux être dans un magasin, je peux prendre plein de choses et tout déposer après. C'est-à-dire que finalement, non.
Justement, quand tu achètes, c'est plutôt en ligne ou en boutique ?
En boutique. J'ai un besoin de matière, j'ai besoin de toucher la matière. Alors, j'achète des choses en ligne, quand même, mais quand je connais. Quand je connais. Mmh. Et quand j'ai déjà vu le produit ou que je le veux, et j'achète plus facilement des chaussures sur Internet. Quand je connais ma pointure et que... voilà.
Quels sont tes spots fringues ?
Alors, je suis un peu versatile. Par exemple, en ce moment, j'aime bien traîner à Saint-Sébastien-Froissart, voir Léon et Harper, Sœur, faire un tour chez Merci, même si pour l'instant, je n'ai jamais rien acheté chez Merci. J'aime beaucoup APC.
Tu t'es inspirée.
Oui, 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 complètement.
Oui, tu me l'as dit dans ton mail, ouais. APC.
APC, et
je sais ce qui est très parisien, tout ça, finalement.
Ah,
Sœur, Léon Harper et APC, là, c'est...
Ah, complètement.
T'es devenue une vraie parisienne.
Complètement. En tout cas, oui, j'ai l'impression. Et même, je sais que, du coup, elle a été interviewée. J'aime beaucoup, beaucoup Vanessa Seward. Et pour elle, sa vision de la féminité, en tout cas, représente quelque chose dans lequel je m'y retrouve. Voilà, complètement.
Ah, elle justement, elle est pour les tailles marquées, la féminité, les jupes mini, midi, pardon, ouais. Et non mini. Alors justement, toi, jupe mini ou jupe midi ?
Alors, pour l'élégance, je vais être jupe midi. Par contre, il m'arrive des fois de me taper des délires. Et par exemple, quand je sors pour faire la fête, et j'aime bien encore avoir ma mini-jupe avec mes talons, sortir mes jambes, être très très sexy et arriver en
hommage à tes anciennes amies de Bamako.
Oui, puis même pour m'amuser, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me contenir non plus, et c'est vrai que en fait aujourd'hui, voilà, c'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui je pense que je suis plus appropriée au moment que je vis, et donc du coup tout ces voilà, ce côté très 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 sexy, je vais le réserver en tout cas à mes moments de festivité.
Mais finalement, est-ce que s'habiller, ce n'est pas un amusement aussi ?
Complètement. Complètement. Enfin, j'en suis convaincue. Je pense que, et pour le coup, je trouve que aujourd'hui, je vois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se, en tout cas, qui, et surtout parmi les stylistes, c'est assez marrant parce que je trouve que c'est les stylistes qui s'amusent le moins avec les vêtements. Mais aujourd'hui, dans les stylistes, le vêtement doit décrire ce qu'ils sont, la manière qu'ils ont de travailler, leur talent, leur personnalité. Et du coup, des fois, je trouve qu'ils se conformisent en tout cas dans des looks. Et ils ne s'amusent pas, voilà, c'est-à-dire que non, et il y a une espèce de snobisme, parfois, que...
Tu es talon ou plat ?
Talon.
Heat bag ou tote bag ?
Alors là, je vais dire bon basique, c'est-à-dire j'aime bien mon... ça peut pas être un heat bag, mais par exemple, je me sépare jamais de mon petit Doc Martens. Que j'ai acheté.
Un sac Doc Martens.
Oui, un tout petit sac que j'ai trouvé à Bristol et qui est parfait. C'est-à-dire que je ne transporte pas beaucoup de choses. Voilà, mon rouge à lèvres, mon téléphone.
L'essentiel.
Voilà.
Quel est le vêtement que l'on ne trouvera jamais dans ta garde-robe ?
Alors, s'il y a un truc qui ne me va pas du tout, du tout, c'est tout ce qui est un peu rock. Et pareil, je pense que c'est un perfecto. Perfecto en cuir, on verra jamais ça. Mais en fait, je reviens.
Pourquoi ? Parce que tu te sentirais déguisée ?
Alors déjà, mais en fait, je reviens à mon côté maigrichonne. En fait, quand je mets un truc qui est très looké rock, j'ai l'impression que ça me rend encore plus maigrichonne que je ne suis. Et ouais, j'ai l'impression d'être une mandibule, je sais pas comment
dire. Toi, tu veux pas te cacher, en fait.
Non, j'ai l'impression que c'est trop gros, trop épais sur moi, que ça manque de légèreté. Et puis surtout, ça me donne... ouais, je sais pas, j'ai l'impression même que ça accentue mes cernes. Enfin,
ça accentue tes cernes.
Ce style rock, je sais pas, il y a un... ouais, non.
Qui ne te correspond pas, en fait.
Pas du tout, pas du tout. Et non, mais je suis même convaincue que ça ne me va pas, vraiment pas.
Et à contrario, quel est le vêtement que tu rêverais d'avoir ?
Qu'est-ce que
si tu devais te faire, si tu pouvais te faire une folie ?
Ah, une folie ? Eh ben, je pense que je m'achèterais une vraie robe de soirée, un truc d'un créateur. Si vraiment j'avais le budget, j'investirais dans ça. Peut-être que je la porterais jamais, mais l'idée d'avoir cette pièce dans ma garde-robe,
et tu pourrais lui parler tous les soirs.
Oui, voilà.
Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus ?
Alors, je donne beaucoup. C'est-à-dire, enfin, je fais des paquets et je dépose au point relais. J'ai des copines aussi qui se servent. Et oui, non, je donne beaucoup. Je donne beaucoup.
Alors, toi qui es styliste, quel est le vêtement qui sublime une femme ?
Le vêtement qui sublime, en tout cas qui va à pratiquement toutes les femmes. Si. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas en porter ou qui n'osent pas passer le pas. Mais je pense à un pantalon flair. Voilà, un pantalon large,
droit.
Ça va
à tout le monde. Toutes les morphologies.
Oui, alors, oui. Alors, en plus, moi, j'ai une formation de conseillère en images à un moment que j'ai faite. Et à un moment, on a étudié donc toutes les morphologies, les X, les Y, les O, les H. Et Y, ça n'existe pas d'ailleurs.
C'est la génération Y.
Oui.
C'est pas grave.
Bon, en tout cas, toutes les morphologies. Et le pantalon, en tout cas le flair, ou le pantalon XXL, il revient en tout cas dans ce qui est théorique. Il revient tout le temps et c'est vrai qu'il va structurer le corps, il va allonger la jambe, il va... et peu importe les morphologies.
Et le pire des fashion faux pas pour une femme
alors, le col en chair.
Ah
le col en chair. Et par exemple, donc, je me suis mariée il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours.
Oh,
et il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelée. Parce que bon, ils savent que je suis styliste et du coup, ils avaient peur de faire des erreurs et ils m'ont tous appelé pour me demander s'il y avait quelque chose que je voulais pas et j'ai interdit le col en chair. J'ai dit non.
C'est toi qui as dessiné ta propre robe ?
Non, j'ai non, ça, alors c'est une jupe que j'ai achetée sur internet. D'ailleurs,
c'est drôle
parce que je n'ai pas trouvé sur en fait dans la
vraie vie. T'as pas trouvé ta robe en fait ?
Non. Non, j'ai pas trouvé. Je voulais un pantalon. Et alors, encore une fois, les pantalons, pour trouver un qui est à ma taille, qui tombe pas par terre, impossible. Et du coup, j'ai trouvé par hasard sur de Outnet.
Et
dans le désespoir.
Et qu'est-ce que tu as mis en haut ?
Un petit pull, le Mont-Saint-Michel.
Très chic.
Voilà, tout poilu. Et par-dessus, pour me protéger, j'avais mis ma nouvelle veste.
Un perfecto.
Ouais. Non,
je plaisante.
Non, j'avais mis ma petite veste, mais je l'ai enlevée après pour le mariage. Mais voilà.
Quelle est ta définition de l'élégance ?
Une définition, je dirais, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, être approprié à son moment. C'est-à-dire, si on va à la campagne, on ne met pas de talons. On va avoir l'air ridicule, c'est ça. Et éviter peut-être des fois de, si on n'assume pas en tout cas d'éviter le ridicule et oui, voilà, d'être approprié à son moment.
Qu'est-ce que tu entends par éviter le ridicule ?
Bah voilà, comme bah, si on est à la campagne et qu'on porte des talons, bah on marche sur la terre et puis on se casse la figure et puis voilà, on finit avec les talons tout crado et voilà, c'est ça. C'est, bah, c'était joli quand on est arrivé, puis au final, on ne peut même pas aller se balader. Voilà. Donc
c'est ridicule, en fait, et ça ne devient pas élégant. C'est
voilà,
ça
c'est ça.
Alors, pour finir, toi qui es devenue parisienne, en habitant à Paris, en travaillant à Paris, et en épousant un vrai Parisien, que penses-tu de la Parisienne, mythe ou réalité ?
Il y a une image, la Parisienne, en tout cas... Je pense que le cliché existe quand même. Je pense que
donc le béret, la marinière.
Non. Non, je parle pas de ce cliché-là. Je parle plutôt de justement de cette nonchalance et de cet art de vivre qui est quand même, je trouve, très raffiné. En tout cas, à Paris, je trouve que quand on va dans les appartements des Parisiens, il y a toujours des jolis objets, des jolis, des beaux bouquins. Il y a quand même quelque chose qui voilà.
Moi, je connais des Parisiens qui n'ont pas de livres chez eux. Hein.
Ah bon? Et bon, en tout cas, je trouve qu'en tout cas, il y a cet art de vivre qui est au-delà du physique. Mmh.
Tu vois, c'est plus lié à l'art de vivre.
Voilà, qui est, voilà, c'est ça.
Au-delà des terrasses, etc.
Oui. En tout cas, il y a ça. Et alors, c'est marrant parce que moi, quand par exemple, je passe mes vacances maintenant à Bamako, quand je râle sur un truc. Ils me font tous « Oh là là, la Parisienne ouais. !» et la diva. Et alors, je pense qu'eux, ils ont cette image-là. Mm-hmm. Et non, moi, ce que je trouve, c'est que voilà, au-delà du physique, au-delà de tout ça, il y a un art de vivre et il y a un mode de vie, effectivement, où j'ai l'impression qu'il y a quand même de la liberté. Voilà. Effectivement, on voit les femmes fumer dans la rue, on voit des gens boire des verres, et moi je les trouve très beaux, en fait, les Parisiens. Et
voilà, je suis assez admirative. T'as dit Parisien, finalement, ouais, t'es non, toujours.
Non, non, pour le coup, même les Parisiennes, mais je suis assez admirative, en tout cas, quand je vois dans les rues. Enfin, voilà, Paris, c'est une très très belle ville, et je trouve que les gens, en tout cas, qui y vivent, l'aiment beaucoup. Voilà leur vie, même si des fois ils ont envie de partir, même si des fois, bah, au final, oui, ils l'aiment beaucoup, leur ville.
Et tu penses finir ta vie à Paris ?
J'espère, j'espère. Oui, oui, j'espère. J'espère être une mamie parisienne, en tout cas.
Merci infiniment, Victorine.
Merci à toi.
Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.